Trainville PM. La voie est libre.
Écoutez, ce que le DGEQ nous dit, c'est que pour mettre en place un nouveau mode de scrutin, ça prend entre 30 et 42 mois. Moi, j'ai pris l'engagement de déposer un projet de loi d'ici le 1er octobre. On va respecter cet engagement, donc 1er octobre 2019. Donc, si vous faites un calcul, pas rien de compromis.
Voici Luc Lavoie.
Alors, sur Facebook Live, La Voix est libre, mon cher Luc. Salut.
Salut, Bernard.
Alors, François Legault, donc, qui dit, écoutez, moi, j'ai pris un engagement, je ferai pas un Trudeau de moi-même, je vais déposer un projet de loi pour un nouveau mode de scrutin d'ici le 1er octobre, sauf que le directeur général des élections lui dit, mais si tu veux que le nouveau mode de scrutin soit en place pour l'élection de 2012, faut que tu fasses adopter ton projet de loi d'ici décembre prochain. Mm-hmm. Passé décembre, oublie ça, ça va être pour 2026, ça sera pas pour 2022.
Alors c'est, vas-y pour 2026, parce que c'est pas facile d'adopter ce genre de réforme-là. Une réforme comme celle-là nécessite presque obligatoirement, un consensus des partis.
Ça oblige un consensus.
Ça oblige un consensus.
Pas l'unanimité. Mais je te dirais 3 parties sur 4 à l'Assemblée nationale. Trois parties sur 4.
D'accord, mais idéalement 4 sur 4.
Idéalement 4 sur 4.
Mais là, oublie pas une chose, là, ici. S'ils vont de l'avant avec la réforme du mode de scrutin pour y ajouter une part de proportionnelle pour essayer de compenser la différence entre le pourcentage de vote puis le pourcentage de sièges, s'ils vont là, ça va être une grosse réforme. Ça veut dire que pour ajouter des députés sur une liste, il va falloir qu'ils ajoutent des députés, je pense
non,
pas.
Non, il reste à 125.
Alors, très bien, ils les ajoutent pas, je comprends, ils les ajoutent pas. Mais là, ça veut dire qu'ils vont être obligés, s'ils gardent à 125, de prendre des comtés, puis de les élargir, puis d'en faire disparaître d'autres.
Mettons, ils prendraient les comtés du fédéral, les 78 comtés du fédéral, puis la différence entre 125 puis 78, ce serait des comtés qui seraient donnés en fonction de la proportion des voix sur des listes.
Voilà.
Alors, et là, ça veut dire des gouvernements, mon ami, minoritaires.
Ça, moi, j'ai toujours été contre.
T'as toujours été contre la réforme, toi?
Oui, le mode de... Parce que tout a été essayé dans le monde, dans les démocraties. Tout a été testé d'une façon ou de l'autre dans les démocraties. L'extrême, c'est Israël, où l'élection est purement proportionnelle. Après ça, t'as toutes les variantes. T'as l'élection européenne qui se fait sur des listes. T'as l'élection française à l'Assemblée nationale où il y a une part.
Je pense qu'il n'y en a plus maintenant, mais ils veulent la réintroduire. Il y en a déjà eu.
En Allemagne,
Enlevé pour empêcher le Front national de rentrer.
Voilà,
tu te rappelles?
Voilà, exactement. Ouais. Alors, pourquoi ces réformes-là? Moi, je n'y crois pas. Parce que ce que l'expérience m'a montré à moi, puis je comprends qu'il y en a qui ont un point de vue différent, puis c'est pourquoi il faut avoir un débat un peu éclairé, c'est que le parlementarisme britannique, avec son type de mode de scrutin qu'on applique ici, nous donne des gouvernements stables. C'est vrai qu'il n'y a pas une représentation aussi parfaite qu'on le souhaiterait. Par exemple, tu regardes ici, là, la CAQ, là, en 2018, là, ils ont récolté 37,4% des voix
puis ont 60%.
Et 60% des sièges.
C'est ça.
Alors, bon, alors là, c'est assez frappant.
Alors que QS ont eu 16%, ils ont 10% des moins de 10%. Le PQ a eu 17% des voix, ils ont moins de 10% des comtés.
Oui. Alors, par ailleurs, c'est vrai qu'il y a ces choses-là. OK? Parce que les élections sont considérées comme locales.
Oui.
Puis localement, c'est comme ça que ça vote.
Oui.
Mais quand tu t'en vas introduire une nouvelle notion comme celle-là, t'amènes de l'instabilité. Un gouvernement minoritaire, ça fait jamais des grandes réformes. Un gouvernement minoritaire, ça lance pas la baie James. Un gouvernement minoritaire...
Ça fait pas le déficit zéro.
Un gouvernement minoritaire, c'est un gouvernement qui est toujours obligé d'être en train de négocier avec ses adversaires.
Ça paralyse une société, tu penses, toi, un gouvernement minoritaire?
Pas paralyser une société, mais ça paralyse un système parlementaire, oui.
Alors, j'ai déjà quelqu'un qui m'écrit, Luc, scrutin proportionnel, ça veut dire... Si ça veut dire la fin des gouvernements majoritaires, on n'avancera plus à Québec, c'est pas mal ton point de vue. Je vais vous demander, les auditeurs, ce que vous en pensez. 790-9850. Est-ce que vous êtes de ceux qui souhaitez un nouveau mode de scrutin plus proportionnel, même s'il y a un prix à payer pour ça en termes de stabilité, mais on gagne en représentativité? Le pourcentage de vote va être beaucoup plus proche du pourcentage de comté.
Mais Bernard, tu sais que la plus grosse job de vente que François Legault et Sonia Lebel vont avoir à faire, c'est auprès de leur propre caucus.
Ben oui.
C'est eux autres qui vont souffrir de ça.
C'est sûr.
Les perdants, c'est eux-mêmes.
C'est clair.
Alors, je veux dire...
C'est pas passé,
c'est
d'ailleurs, au caucus.
Pas,
mais... C'est pas passé au caucus encore, là.
Puis le 1er décembre, là, oublie ça, là, parce que d'abord, il va y avoir une révolte dans son caucus. Dès lors que tu dis, il disparaît des comtés, on est réduit à 78 pour prendre l'exemple que tu as donné de 125 à 78. 78, puis le reste, ça va être de la proportionnelle. Là, ils vont tous commencer à se regarder l'un l'autre. Ah ouais, toi, tu vas garder un comté parce que t'es ministre. Moi, j'étais supposé d'être ministre, mais mon tour n'est pas venu. Puis là, comment ça, là, je vais perdre mon comté? Ah, mais ben, on va te mettre sur une liste. Ah oui, quelle liste? On va... Écoute, le problème numéro un, c'est son caucus à lui. Problème numéro deux, c'est le caucus des libéraux. OK? Le caucus des libéraux, ils nettoieront plus l'île de Montréal avec de la proportionnelle comme ça. Là.
Mais les libéraux, ils étaient contre, là, ouais. Un nouveau mode de scrutin. Ouais. Là, ils sont moins contre qu'avant.
Ben oui, parce qu'ils peuvent y voir des gains.
Ils pensent que ça pourrait leur permettre de retourner dans le Québec francophone.
Oui,
absolument. Dans certaines régions.
Absolument.
Tu comprends? Alors là, ils sont en train de changer de cap un
Donc,
peu.
Donc, son adversaire principal, c'est son caucus. Et ça va être sa bataille. S'il y parvient, on verra. C'est la démocratie qui parle. Fine. Mais moi, je pense que c'est une très mauvaise idée.
Tu vois, il y a Louis qui nous écrit. Il dit, oui, moi, j'y suis favorable, mais pour un changement aussi important, il faut mieux informer les citoyens, oui, vraiment, et procéder par référendum.
Moi, je pense que je suis plutôt d'accord avec ça.
Moi aussi, je suis plutôt d'accord. On va aller rejoindre Luc au 790-9850. Bonjour, Luc.
Bonjour, monsieur.
Je suis
d'accord pour dire avec vous qu'il faut que notre gouvernement au Québec, la seule juridiction francophone en Amérique du Nord, demeure avec un gouvernement majoritaire le plus souvent possible. C'est ce que nous offre notre mode de scrutin actuel, mais je reconnais qu'une dose de proportionnelle pourrait corriger le tir, avoir plus de femmes ou d'autres groupes ethniques aussi à l'intérieur de l'Assemblée nationale serait déjà un plus. Je vois deux solutions possibles si M. Legault va absolument aller de l'avant avec la proportionnelle, cette dose-là. Créer une deuxième chambre. C'est le système un peu bicaméraliste britannique dans un certain sens. Mettez les députés et la proportionnelle dans la deuxième chambre et faites-en ensuite un peu comme la situation avec le Sénat français. Ils peuvent légiférer, ils peuvent amender les projets de loi, mais c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot sur tous les textes et c'est seulement à l'Assemblée nationale que le gouvernement est responsable. Ça veut dire avec des députés élus à la façon actuelle, ce qui voudrait dire habituellement des gouvernements majoritaires.
Mais là où c'est difficile de mettre en place une réforme, comme vous l'expliquez très bien d'ailleurs, c'est que il va y avoir deux classes de députés. Là. Il y en a un qui va avoir un député qui va avoir un type de légitimité, puis l'autre moins. Puis ce que je comprends, c'est que tu peux prendre l'initiative à partir de la deuxième chambre, mais il faut que ça soit entériné par l'autre. Enfin, c'est un peu complexe. Hein.
Puis Luc,
la première chambre aurait toujours le dernier mot quand même, parce que le gouvernement il serait majoritaire habituellement. La deuxième chambre serait un peu comme une chambre. Selon une chambre.
Comme un Sénat, Luc, sauf qu'on l'abolit, le Sénat. On l'abolit, notre Sénat, là.
Le conseil législatif.
Oui, mais regardez l'Australie. Toutes les provinces qu'on appelle des États australiens ont pratiquement tous, sauf le Queensland, une deuxième chambre et là, la proportionnelle. Il faudrait vérifier comment ça fonctionne. Mm. Puis vérifier si cette solution n'est pas la solution idéale.
Très bien. Merci, Luc, pour l'appel. Moi, je vais te dire franchement, là, je teste les auditeurs aujourd'hui là-dessus, là, mais. Mon sentiment, là, c'est que la majorité des gens, ils s'en balancent, Luc, et c'est pourquoi, je pense...
Et parce qu'ils s'en balancent, ils sont pas au courant de ces affaires-là. Ce dont on est en train de parler, celui à qui on parlait, mon homonyme, là, les gens comprennent pas ça. Il faudrait qu'on parte de zéro et qu'on explique leur garde. On n'a jamais connu ça.
Tu proposes aux citoyens moyens là, de créer une autre chambre là, législative là, qui va coûter je ne sais pas combien par année. Le monde va dire Hey, on a déjà un parlement, on n'a pas besoin d'un deuxième parlement. C'est clair, ça.
Parce que quand tu cherches une solution trop symétrique, comme celle que suggérait monsieur, il n'est pas le premier d'ailleurs à la mettre de l'avant, cette solution-là, c'est dur d'arriver à des résultats.
Dave, bonjour.
Bonjour, messieurs, bonjour. Pourquoi faire compliqué? Qu'est-ce qui va se passer avec les régions, la Côte-Nord, l'Abitibi? C'est Montréal qui va mener la proportionnelle? C'est Montréal, on sait très bien qui va mener la proportionnelle? Quels partis vont être avantagés par la proportionnelle? Ça n'a pas de sens, ça va être compliqué.
Dave, j'entends ce que vous dites. Vous savez, Legault a dit... Il n'y aura pas de proportionnel qui affaiblit les régions, je m'y engage.
Oui, mais comment est-ce qu'il va faire ça?
Ça va prendre toute une formule, hein, Bernard.
Je vous rapporte.
On va prendre la potion panoramique. Ça n'a pas de bon sens. Ça va être le secret de la caramelle, je ne le sais pas. Mais ça n'a pas de sens parce que moi, je trouve qu'on devrait faire ça encore plus simple. Savez-vous, quand je vous ai entendu dire faire les mêmes comtés que
Cour fédérale.
Comté fédéral, ouais. Je trouve que ça fait plein de sens, moi. C'est-à-dire, mettons, la Côte-Nord, Baie-Comeau, cette île, c'est le même comté.
Ouais.
C'est René Lévesque, Duplessis n'existe plus, c'est tout le même comté. Puis aller chercher des candidats de qualité, puis on les payera un petit peu plus, ils vont être contents, ça va être fait, ils vont avoir un meilleur salaire. On va sauver des salaires.
Ah, vous voulez dire, OK, non, OK, pas de nouveau mode de scrutin, mais on diminue le nombre de comtés, c'est ça que vous dites?
Absolument, okay. Absolument. Puis une voix, un vote, moi, non, je suis vraiment déçu, ça me fait peur. Et comme M. Lavoie dit, on n'aura plus de gouvernement majoritaire, on n'aura plus de réforme, on ne pourra plus rêver. On pourra plus chialer vraiment. On va chialer tout le temps.
Merci. Merci, Dave, pour l'appel. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je suis en faveur d'un scrutin proportionnel quelconque. La formule exacte, je n'ai pas toute la science de votre invité. Mm. Mais je me souviens du PQ en 72 avec 22 ou 23% du vote.
73.
Et 6 députés en chambre. Est-ce qu'on veut revivre ça? Par contre, je suis un peu partagé parce que je vous avoue que Québec solidaire me fait peur dans une proportionnelle.
C'est sûr qu'eux autres, ils gagnent.
Ben, puis ça fait, puis ça, ben, c'est une autre des conséquences.
Regardez où est-ce que le PQ est rendu là, à combien de députés? 10 députés. On dirait qu'on revient dans les années 70 alors que c'était politiquement puis démocratiquement, on repasse là, hein?
Mais d'un autre côté...
Moi, j'aimerais qu'on essaie de trouver une formule qui est juste, qui est équitable,
ouais.
Puis qui marche. S'il faut vivre avec des gouvernements minoritaires, malgré ce que vous en dites, monsieur, ben on vivra avec ça, mais au moins, ça va être représentatif.
OK, donc vous êtes favorable. Merci, Gilles. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'écrit, puis on ne rentrera pas dans ce débat-là, Luc, mais qui me dit... tu sais, je te parlais du déficit tout à l'heure. C'est quoi l'autre exemple que tu me donnais? Là?
La baie James.
La
loi 101.
La loi 101. Quelqu'un m'a dit la loi sur la laïcité, il n'y en aurait pas non plus.
Non plus.
Il n'y en aurait pas non plus. Si
ceux qui sont des partisans de ça, pensez-y, là, il n'y en aura pas de ça.
Ouais,
parce que quand tu es en minorité, tu n'es pas capable de faire des affaires comme ça.
Oui. C'est Pierre.
Puis il y a quelqu'un tout à l'heure, excuse-moi.
Oui, vas-y.
Il y a quelqu'un tout à l'heure qui soulignait le fait que le gouvernement du Québec, c'est le seul gouvernement francophone d'Amérique du Nord. Il faut qu'il soit majoritaire, ce gouvernement-là. Il faut qu'il soit capable de s'appuyer sur une capacité de poser des gestes importants.
C'est un argument intéressant. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je suis tout à fait pour. Essayer de passer un candidat PQ dans West Island ou dans NDG ou quelque chose comme ça... C'est vrai que ce que Dave disait tantôt, c'est à Montréal, tu as beau avoir un gros pourcentage de vote, mais tu n'as pas d'élus.
Non,
dans
c'est
certains partis.
Pierre, si c'est une vraie proportionnelle, et moi, ce qu'on me dit, c'est que le scénario qui est sur la table présentement, ça a le temps de changer parce qu'ils ne sont pas passés ni par le caucus, ni par le Conseil des ministres. Mais ce qui est sur la table présentement, c'est une quarantaine de comtés donnés par la proportionnelle. Et donc, ça voudrait dire, effectivement, que sur l'île de Montréal, il y aurait autre chose que des libéraux. Il y aurait peut-être plus d'élus solidaires, par exemple.
Mais Bernard, on assisterait aussi...
Et peut-être plus d'élus caquistes, en fait, dans la situation actuelle.
Ouais, on assisterait, en fait, à la naissance de nombreux partis. Ça aussi, c'est une des conséquences de la proportionnelle.
Il y a quelqu'un qui m'écrit pour dire « On veut-tu que les extrêmes rentrent au Parlement? Ben, on veut-tu un député de la meute? » m'a écrit
un
ça.
Un des problèmes de l'État d'Israël, là, présentement, depuis des années, il y a des gestes qu'ils sont obligés de poser pour faire plaisir...
Aux extrémistes religieux,
Il y a un danger,
Ça, c'est clair, Il nous reste, je pense, on avait-tu encore un appel? Non? Alors, je veux juste vous donner quelques exemples de textos que j'ai reçus. Alors, je me repose la question. Est-ce que M. Legault est vraiment favorable à ce mode de scrutin? Officiellement, je vous le dis, là, monsieur ou madame, là, il le reste favorable. Il maintient son engagement de déposer un projet de loi. Mais comme le dit Luc, va-t-il être capable de le faire adopter d'ici le mois de décembre? Hey, c'est quelque chose, l'adopter une nouvelle. Parce que tu n'as pas le choix de parler.
Ça m'apparaît impossible.
Pour toi, c'est
décembre. Tu ne peux pas passer ça sous baillon. Ça n'a pas de bon sens.
Alors, si à ce moment-là, tu ne peux pas le faire pour décembre...
Ben, là, tu oublies l'élection de
2022. Mais tu vas quand même, mettons, tu permets au projet de loi de se faire adopter, mettons, après décembre prochain.
Là, ça irait à 2026.
Mais est-ce que tu irais à ce moment-là, on le fait voter? On le fait voter, là, mettons, en 2020, mettons, là, printemps 2020.
On donne est-ce le cadeau empoisonné au prochain.
Ou non? Ou est-ce que, au moment de l'élection 2022, tu demandes au peuple de ratifier le modèle qui a été adopté?
Comme un référendum
en parallèle.
Une sorte
de référendum en parallèle?
Peut-être. C'est une idée intéressante, j'y avais pas pensé à ça. Mais je reste fondamentalement opposé à ça. Faut que les gens réalisent que tout ce qui apparaît très beau dans ça, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. L'arrivée des extrémistes, et on pourrait continuer. Et l'instabilité politique qui accompagne ça.
Très bien. On va s'arrêter au retour. On va parler des jeunes, Luc. Parce bien que sûr. C'est vraiment hallucinant. La page Facebook là, des jeunes qui manifestent vendredi après vendredi après vendredi après vendredi pour le climat, là, ils sont rendus au-dessus de quoi? 37 000. Je vais vous raconter une histoire là-dessus, tout de suite après la pause.
Drainville PM. La voie est libre.
Alors demain, ça va être la dernière manifestation des étudiants donc qui sèchent le cours, les étudiants du secondaire qui sèchent le cours pour manifester pour le climat. Ça a commencé au mois de janvier. Vous savez, là, il y a cette jeune étudiante suédoise là qui a dit, regardez, là, ça donne rien d'aller à l'école comme si de rien n'était. Quel est l'avenir qu'on aura? Le climat se détériore et tout le reste. Alors elle a parti un grand mouvement international, puis les jeunes Québécois font partie de ce mouvement-là. Et là, Luc, je vais te raconter une histoire. Hier, je suis en discussion avec un stratège caquiste. Il me dit, j'ai une discussion avec ma fille. Ma fille est au secondaire. Et puis là, elle me dit...
Elle est adolescente.
Oui, oui. Il me dit, papa, pourquoi vous n'êtes pas bon, la CAQ, en environnement? Ben, il dit, là, t'as peu, on vient d'arriver, puis on prépare des affaires, tu vas voir, tu sais. Elle dit, non. Elle dit, tout le monde dit que vous n'êtes pas bon, puis moi, j'ai pas d'argument. Puis je suis sur Facebook, puis mes amis, ils me disent tout. Toi, là, ton père, il est à la CAQ, mais franchement, là, tu sais, il est pas bon, puis ils sont pas bons, puis tu sais, là. Puis il y en a là-dedans qui sont déjà QS, là. Ils sont déjà Québec solidaire. Fait que là, il dit, ouais, mais là, t'as peu, tes amis, c'est qui ça, tes amis? Ben mes amis de ma classe, là. Puis les secondaires 5 dans l'école, puis ailleurs aussi. Ah ouais, combien est-ce qu'ils sont? Ben, elle dit, on est rendu 37 000.
Sur la page Facebook.
C'est la page Facebook. Comment? 30? Ben voyons, tu me niaises, là. Elle dit, non, je vais te le montrer. Puis là, elle arrive, puis elle ouvre la page. Puis, Stop Climate Change Before It Changes You, examen du ministère 2019, groupe public, 36 987 membres. Ça, c'est la gang qui se sont créés pour réagir aux examens du ministère parce qu'il y avait une question sur comment on gère les changements climatiques plutôt que comment on lutte, là. Oui. Je paraphrase, mais alors, il y a eu tout un mouvement autour de ça. Et là, jasais donc avec ce stratège-là qui me dit, écoute, il dit, sais-tu c'est quoi notre problème? Ces jeunes-là, ils parlent à leurs parents, puis ils donnent mauvaise conscience à leurs parents. En fait, si on ne fait pas attention, les parents qui ont voté CAQ vont finir par regretter le vote parce que les enfants sont tellement militants, ben,
ils ont
mobilisés.
Une capacité de répercussion énorme. Un enfant, c'est ses parents, ses frères et sœurs, ses voisins, son voisinage, ses camarades de classe. C'est énorme le pouvoir qu'ils ont.
Et ces jeunes-là qui sont en secondaire 5, ils votent aux prochaines.
Oui.
Ils sont déjà très crinqués, là.
Oui. Oui.
Hein? Et donc, la question que je te soumets, mon ami, est-ce que tu penses que... la CAQ va devoir donner un coup de barre sur la question de l'environnement, si ce n'est que pour diminuer la virulence de ce groupe-là qui monte, là, les jeunes qui sont de plus en plus actifs et influents, notamment auprès de leurs parents. Et est-ce que tu penses qu'ils peuvent, sans devenir un parti pro-environnemental, parce qu'ils sont les méchants de l'histoire, la CAQ. Là, dans
je pense qu'ils vont le rester, Bernard. C'est un de leurs problèmes. C'est que la CAQ, il y a quelque chose de générationnel dans la CAQ, OK? Tu regardes les jeunes. Moi, j'en ai deux filles, là, puis jeune trentaine. Bon. Début de la trentaine. Eux autres, là, la politique, comme nous, là, on l'a discuté, le nationalisme versus le fédéralisme avec la macroéconomie, ceci, puis ta-ta-ta-ta-ta-ta, ça leur passe 90 000 pieds par-dessus la
tête. Ça les intéresse pas.
Ce qui est donc, tout ce qui est présentement sur la table en termes de priorité gouvernementale, en fait une bonne partie, ça leur passe 30 000 pieds par-dessus la tête. Mais l'environnement, c'est... sans compromis, c'est ça qui compte. On veut savoir qu'est-ce que le gouvernement veut faire pour l'environnement. Puis si tu as voté pour la CAQ, c'est parce que tu es contre l'environnement. C'est rendu tranché comme ça. Ben... Et je comprends ton stratège de la CAQ. Ils deviennent nerveux. Ils commencent à s'en rendre compte, là.
Ben, puis là, moi, je disais, tu deviendras jamais. La CAQ ne deviendra
jamais.
Puis
les a perdus aussi. Fais attention
oui.
à ce jeu-là. Soit que les Verts vont monter,
soit
que QS va monter, ou les Verts vont devenir une véritable entité, là. Soit que les libéraux vont comprendre. puis ils vont ramasser les autres.
Oui, mais les libéraux m'ont dit, je pense qu'avant de devenir le parti vert du Québec, là, ça va leur en prendre pas mal.
L'espace est vide présentement.
Oui, mais justement.
Le QS qui s'énerve, là.
Oui, mais QS, la raison pour laquelle ils ont 10 députés, moi, je suis convaincu, la première raison pour laquelle ils ont 10 députés, c'est qu'ils se sont positionnés comme le parti de l'environnement. Ah oui, je suis d'accord. Et donc, alors ce qui moi je pense pas que la CAQ peut devenir le parti de l'environnement, mais ils doivent absolument arriver avec des mesures qui vont diminuer le niveau de virulence de ces jeunes-là et surtout les pressions qu'ils font auprès de leurs parents.
Mais oui, et surtout, tu regardes aller, le gouvernement de Stephen Harper, toute cette génération-là là, qui sont très préoccupés par les questions environnementales, avait désigné le méchant, c'était Stephen Harper, est anti-environnement. Scheer est pris avec le même problème présentement, puis il nous annonce de semaine en semaine qu'il va bientôt nous présenter sa politique environnementale.
Ça fait au-dessus d'un an qu'il l'annonce.
Au-dessus d'un an qu'il fait ça.
Ouais.
Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, le gouvernement de la CAQ, je ne sais pas si tu te souviens, mais juste après l'élection, le premier ministre Legault, une des premières sorties publiques qu'il avait faites, c'était pour reconnaître qu'il l'avait échappé. Je pense que c'est ça qu'il avait dit dans le domaine environnemental. Puis là, il a mis une ministre qui a pas fait l'affaire, en tout cas, je veux dire, elle n'a pas été là très, très longtemps. Là, il a changé de ministre. Il y a un ministre qui a plus d'expérience de parlementaire. Et faire baisser la virulence, ils ont de l'ouvrage à faire, pas à peu près.
Tu vois, là, il y en a un qui
beaucoup,
nous écrit.
Beaucoup, là.
Attendez de voir le Conseil général de la CAQ. Vous serez très, très surpris au niveau environnemental. Je vous l'ai déjà écrit. Et c'est pas parce que on réagit aux commentaires de la population, mais c'est une vraie volonté du parti. Donc il y a un caquiste là au moins qui nous écoute là et qui réagit. Je te rappelle aussi la lettre de Charles-Olivier Dubé, le fils de Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, qui a écrit une lettre ouverte très 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 virulente. Tu te rappelles, un jour notre génération dirigera cette belle nation, à moins de changer tes manières, toi mon caquiste là. Lorsqu'il y aura décision budgétaire, nos choix seront clairs. Nous penserons à nous-mêmes. Comme tu nous as appris à le faire. Écoute bien ça. Entre te nourrir dans un CHSLD ou investir pour nous sauver, là, genre sauver notre planète, on va pas se mentir, t'auras pas grand-chose à manger. C'est le fils d'un ministre de la CAQ qui crie « On va vous laisser crever d'un CHSLD pour sauver l'environnement. »
Je te dis que non, je suis en train de jeter un coup d'œil.
C'est quelque chose. Puis moi, je ne savais pas que c'était le fils de Christian Dubé. C'est quelqu'un qui m'avait signalé là-dessus. Puis finalement, j'en avais parlé à Paul Arcand le matin. Mais moi, dire, Christian Dubé, après ça, a dit « Je l'aime, mon gars, puis je sais qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, puis, mais je respecte sa pensée. »
Sans vouloir faire du coq à l'âne, ça me rappelle, parce que c'est du coq à l'âne. Le référendum de 1995, il y avait un ministre dans le gouvernement de Jean Chrétien que tu as connu sans doute, Marcel Massé, Massé.
Oui, Massé, bon. Président du Conseil du Trésor.
C'est ça. Ouais. Alors, puis, il emmenait large à ce moment-là, à Ottawa. Mais un matin, dans le journal de Montréal, il y a comme deux pages. Ça raconte quoi? Ça raconte que le ministre Marcel Massé, toute sa famille qui est à Montréal, puis ils sont nombreux, ils votent tout oui au référendum. Alors, je me rappellerai toujours d'un appel tout à fait classique de lui. Téléphone sonne, c'était M. Mulroney. Il dit, allô? Il dit, Luc, as-tu vu ton journal de Montréal? J'ai dit, ben, je l'ai à côté de moi. Va à telle page. Ah, voilà. Il dit, tu veux savoir c'est quoi un gars influent en politique? Il dit qu'il est là pour se battre pour le Canada. Tous les membres de sa famille votent contre lui. Un gars qui est très influent.
Ouais,
convaincant.
C'est dur pour l'ego. On s'en reparle demain?
Bien sûr.
Des cas de rougeole à Montréal. OK? Après la pause.